genre.
Tu peux te. Alors.
Ouais, qu'est-ce que je dois faire?
Quelques règles. Tu parles vers le micro.
Je parle vers le micro.
Ok. Et Nathan parle juste pour.
Je parle.
Ouais, c'est un peu loin.
C'est un peu loin.
Faut qu'on...
Mais c'est un peu trop proche de. J'ai merde, de toute façon.
Non, donc, je le fais pas, hein, c'est pas grave.
Non, c'est
mais
bon.
Si.
Il faut qu'on investisse dans un deuxième micro en fait.
Ah, ok.
Genre.
Mais il faut au moins qu'on trouve un système pour avoir trois personnes qui parlent parce que.
Ouais.
Ce sera pas la dernière fois qu'on aura d'autres personnes.
À l'avenir, il faut qu'on. Est-ce que tu peux fermer la porte s'il te plaît?
Mm-hmm,
il faut qu'on. Ok. Oh là là. C'est bon?
Ouais.
T'es...
C'est trop bizarre.
Ça va?
Attends.
Ouais.
Attends de mettre le casque, ouais. Tu vas trouver ça encore
oh,
plus bizarre.
Oh non, je veux mettre un casque.
T'es pas obligé.
Sinon, obligé,
je le
mais
prends,
ça
mais
fait...
c'est plus logique que ce soit toi qui l'aies.
Okay.
C'est Nikki et toi qui allais plus parler.
Ah bon?
Ah, je pense.
Ah ouais, je suis curieux de. Oh non.
Et maintenant, écoute ça.
Ça va, mais c'est parce que c'est pas toutes les vidéos bizarres que je regarde.
Jamais, elle adore le ASMR. Tu connais l'ASMR?
Ah, ouais.
Ouais.
Ah, tu connais?
Tu fais genre 30 minutes de ASMR tous les soirs.
C'est pas vrai. Mais j'ai un collègue qui a référencé ça, le jour il a dit ah, on dirait presque du ASMR. Je dis oh, les gens savent.
Bah moi je connaissais pas jusqu'à ce que tu m'en parles la première fois qu'on a mis le casque et que tu m'as dit que j'aimais trop.
Tu me out quoi.
Bah ouais. Bienvenue à Refaire le Monde en 20 minutes, je m'appelle Nikki.
Je m'appelle Nathan et...
Je m'appelle Gemma.
Hey, ouais. On a une troisième personne. Trop bien.
Oh yeah, le troisième mousquetaire.
Ce podcast est un podcast où nous parlons de tout et de n'importe quoi. Et on est des chrétiens qui habitent à Paris et nous voulons discuter de comment ça affecte nos vies et plein de sujets de société, etc., etc. Donc si ça vous intéresse de nous entendre parler de tout et n'importe quoi toutes les semaines, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify ou Apple Podcasts. Cette semaine... Gemma nous rejoint. Gemma, c'est quelqu'un de très très spécial pour moi. C'est ma femme. Et elle voulait, en fait, elle voulait faire quelques commentaires sur notre épisode de mariage. Et un peu dégommer ce qu'on a dit il y a quelques semaines.
Non.
Du coup, si vous n'avez pas encore entendu cet épisode-là, n'hésitez pas à aller en arrière et écouter l'épisode de mariage parce que je pense que Gemma va faire beaucoup de commentaires là-dessus.
Pourtant, c'était notre meilleur.
Ouais.
Moi je dis, il n'y a rien à redire sur cet épisode.
Ouais, c'était parfait. Hein. Mais comme toutes, hein, de toute façon. Hein,
c'est vrai.
Ils sont toutes meilleures.
Mais je pense qu'on a atteint le summum de la podcastitude en fait. C'est ça la conclusion à laquelle je suis arrivé.
Gemma.
Ouais.
Tu veux que je te pose des questions? Comment est-ce qu'on fait ça?
Je sais pas. Non, je peux y aller.
Vas-y.
Direct. Mais tu m'arrêtes si je monologue trop. Non, c'était intéressant. J'ai kiffé cet épisode. C'était vraiment. C'était super chou, ce qui est un peu condescendant, vous êtes mignon. Et je pensais ça, enfin c'était vraiment bien d'entendre votre perspective sur le mariage, puisque vous étiez très, vous avez vraiment mis l'accent sur le fait de, c'est pas pour son propre épanouissement, tu t'agis pour l'autre, tu te sacrifies pour l'autre, l'amour sacrificiel, enfin tout ça, et enfin, vous avez totalement raison. C'était chouette et c'était aussi c'était assez attachant de vous entendre parler de vos femmes, enfin c'était mignon quoi. Mais c'est marrant parce que vous avez aussi parlé du fait de se marier jeune et un peu les réflexions avant de se marier ou quand vous avez annoncé aux gens que vous allez vous marier, donc un peu le avant de se marier et pas juste dès qu'on est marié qu'est-ce qui se passe, et là-dessus je dirais que moi j'ai eu une expérience assez différente. Par rapport à ça.
Ton expérience?
Et je sais pas si c'est parce que je suis une femme.
Ouais.
Pour moi, ça joue, mais je peux pas dire que toutes les femmes auraient eu cette expérience. Je parie que Rebecca, la femme de Nathan, n'a absolument pas eu. Enfin, je sais pas. Allez lui demander.
Rebecca est un phénomène à part. Enfin, nous sommes tous des phénomènes à part.
Ouais.
Mais Rebecca est particulièrement particulière.
Et, ouais, en général, elle a pas la même expérience que moi par rapport à ce genre de truc. Mais aussi, juste en général, dans notre relation à nous quatre, en tant qu'amis, je suis la plus pessimiste de nous quatre. C'est...
Je pense qu'on peut tous être d'accord ici.
Et pour moi, vous êtes tous des optimistes, enfin, fou furieux, et moi je suis genre, c'est pas top. Donc je pense que c'est pour ça aussi que j'ai eu une autre expérience. Parce que vous êtes là, ouais, mais je l'aimais, donc on y allait, et puis voilà, on verra un peu. Fin...
Une des choses que moi j'ai dit dans le podcast, que toi t'as remarqué, c'est que moi j'ai dit que. Tu pouvais pas faire une liste de pour et de contre pour le mariage.
Ouais. Et c'était pas comme acheter un iPhone ou acheter un smartphone où tu peux faire une liste de pour et de contre. C'est genre, si, avant de se marier, tu peux faire une liste de pour et de contre. Pourquoi tu voudrais épouser la personne ou tu voudrais pas épouser la personne. Et je pense que ce que je dis là, c'est pas contradictoire à ce que vous avez dit, mais pour moi, avant de se marier, ça a été important pour moi de pas juste penser à est-ce que je vais pouvoir de pas juste penser à Nikki et de ce que j'allais pouvoir lui apporter, mais penser à moi et de penser à est-ce que Nikki va être quelqu'un qui va pouvoir m'aimer sur la durée, est-ce que ça va être quelqu'un qui va travailler sur notre relation, est-ce que c'est quelqu'un qui va être prêt à faire des sacrifices pour moi dans notre relation. Et c'est peut-être aussi parce que je suis plus égoïste que vous, mais c'était, pour moi, c'était presque une sorte de protection nécessaire de pouvoir m'assurer de ça avant de me marier.
Ouais.
Mais ouais, ça, c'est vrai que c'est mon côté pessimiste où moi, je dirais pas que j'étais remplie de doutes.
Merci.
Parce que tantôt.
Criblée par.
Non, parce que.
Paralysée par le. Pardon, je te laisse.
Non, parce que je connais des personnes. Qui avaient beaucoup de, enfin, qui ont exprimé des doutes par rapport à la relation, et c'est pas du tout mon expérience de ça, mais il y avait beaucoup de remises en question. Je voulais toujours m'assurer, ouais, est-ce que ça va être la bonne personne, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va marcher. Une fois qu'on était mariés, je me suis plus posé ce genre de questions parce que ça n'aide pas. Et franchement, ça se passe plutôt bien. Donc voilà.
Quel était ton processus alors pour vraiment venir à la conclusion que j'allais être la personne qui va pouvoir t'aimer toute ma vie, toute ta vie?
Tu vois, dit comme ça, avec mon histoire de pour et de contre, ça fait genre, c'était super méthodique et tout, j'avais une liste, que dalle. Pas du tout, j'étais vraiment pas aussi réfléchie que ça, hein. C'était un peu genre, ah, on est en couple maintenant, et ah, enfin, mais, je sais pas, mais je crois que quand j'ai réfléchi à ce genre de truc, on était déjà fiancés, hein. Donc j'avais déjà décidé, hein. C'était déjà bon, c'était vraiment au fur et à mesure, je réfléchissais à tout ce genre de trucs. Mais je pense que c'est plus que j'avais plus de pensées un peu, de remise en question, de ah, il y a ça, de peut-être de connotations un peu plus négatives par rapport à se marier jeune que vous avez eu. Même si vous avez eu peut-être des réactions un peu négatives, que moi j'ai pas trop eu de réactions négatives, mais même j'avais des craintes par rapport à ça.
C'est intéressant parce que, enfin, moi j'aime bien ce que tu dis en fait, parce que je crois que j'ai pas la même personnalité que toi, c'est sûr. Je suis un petit peu plus la fleur au fusil, olé olé. On prend un risque et ça va bien se passer. C'est comme ça que je vis toute ma vie. et parfois ça se passe pas mal et puis je décide que je m'en fous et c'est pas grave. Mais quand même, non, avant le mariage, j'ai pesé les pour et les contre, et ce serait bien d'avoir Rebecca qui vienne aussi un jour pour parler de ça. Nous, dans notre contexte, et j'en parle parce que Rebecca est assez ouverte là-dessus, mais Rebecca avait des soucis au niveau psy qui était mineur, quoi. Mais ça m'a quand même fait me poser la question, est-ce que mais c'était mon expérience d'elle au quotidien faisait me dire que oui, même s'il y avait quelque chose qui cliniquement avait été décelé, je savais qu'elle réussissait à gérer les difficultés qu'elle avait de façon tellement génial que finalement le questionnement n'a pas été très fort, mais oui, quand même, la question était là. Et c'est presque, quand tu as commencé à parler, si je t'avais interrompu en cours de route, ce que j'aurais dit, c'est ouais, genre la liste, elle est légitime avant que tu te maries, et dès que tu te maries, tu la jettes à la poubelle en fait. Parce que comme tu l'as dit, une fois que tu es marié, bah, c'est fait, et le divorce devient plus une option à partir de ce moment-là. Mais tant que tu n'es pas marié, la question reste une question, et c'est vrai que de penser à soi, c'est quand même une question qui est légitime, parce que il y a 3 milliards de femmes, ou pour toi d'hommes, qui potentiellement pourrait être le sujet de mon amour, de mon affection, de ma dévotion, de mon sacrifice. Je ne vais pas activement aller choisir celui ou celle qui va rendre ma vie misérable. Et forcément, il y a un côté où on pense à soi. Je pense que c'est vrai, je pense que tu fais bien de le dire, ça rééquilibre un petit peu notre côté très chevaleresque qu'on a développé dans l'épisode précédent.
Moi, ça me rappelle un chant d'un groupe qui s'appelle Rand Collective. Ils ont un chant qui dit, et c'est à propos de Jésus, hein, donc je réapproprie, mais qui dit je vais compter le coût et tu en vaux la peine. Et je pense que c'est intéressant parce que, puisque c'est pareil avec notre choix en tant que chrétien de se soumettre à Jésus, si on se soumet à quelqu'un et qu'on décide dans un mariage de se soumettre à quelqu'un, c'est important d'avant de prendre cette décision, de comprendre le coût que ça va nous apporter, le coût qu'on va devoir y mettre. Et de décider, est-ce que ce coût-là, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que cette personne en vaut la peine pour ce coût-là? Mais à part quand t'as fait ce choix, t'as fait la transaction, tu l'as, pour revenir sur notre truc capitaliste, t'as acheté, t'as fait la transaction, t'as mis l'argent. Maintenant, il faut que tu fasses en sorte que ça en vaut la peine autant que possible.
Ouais.
Et donc là, vous venez de fêter vos 3 années de mariage.
Yes.
Félicitations.
Merci beaucoup.
Ça, c'était un high five pour. C'est bien. Je vois beaucoup de high five à Fireplace en ce moment. C'est un truc qui commence à prendre. Ça fait plaisir. Je sais pas pourquoi, mais pour moi c'est un signe d'une église en bonne santé, beaucoup de high five. les choses vont bien. J'allais vous demander, c'est comment les 3 premières années de mariage? Qu'est-ce qui a été dur, qu'est-ce qui a été pas dur, qu'est-ce qui a été différent, qu'est-ce qui a été pareil à vos attentes, à ce que vous pensiez?
C'est bien. En moyenne, je dirais que c'est mieux que mes attentes.
Ouais.
Et je dirais même qu'il n'y a rien... C'est peut-être parce que je suis pessimiste. Il n'y a rien qui est pire que je pensais que ça allait être. Tout ce que je pensais qui allait être difficile, ou les trucs qu'on savait que ça allait pas être évident entre nous.
Genre quoi?
L'argent. On a un dépensier et...
Moi, une économe.
Une économe.
Ouais, c'est ça.
L'argent.
C'est extrême dans les deux cas.
T'inquiète, on a pareil à la maison.
Une qui est un bazar mobile et un autre qui est très organisé, très rangé. Ça, on savait.
On savait
qu'en vivant ensemble et en mettant en commun nos biens, ça allait être difficile et ça l'est de temps en temps. Je dirais que le côté rangement a été une vraie... Enfin, c'est bizarre à quel point ça n'a pas été un problème.
Ouais. Maintenant, je suis plus surprise. C'est toujours l'histoire que j'aime dire. Mais en sortant avec Gemma, je n'ai pas vu le sol de sa chambre pendant un an. Parce qu'il y avait juste un bazar.
Cette histoire m'exaspère.
Parce qu'il y avait juste un bazar total tout le temps partout. Et moi, je me disais en me mariant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vivre dans un bordel.
Et
en fait, ça va.
Ouais, et moi, je pensais que j'allais jamais réussir à devenir plus rangée, parce que je n'avais pas réussi pendant 22 ans, et que toi, t'allais absolument pas supporter. Et en fait, bien sûr, il y a des moments où tu deviens super frustrée, et moi, je dis, bah ouais, bah tu sais qui t'a épousé, alors, hein, t'as pas à te plaindre. Il y a des moments comme ça, mais franchement...
Ça va.
C'est vraiment pas le...
Comment est-ce qu'on est arrivé à ce moment? Comment est-ce qu'on est arrivé là?
Aucune idée.
Ouais.
Honnêtement, c'était j'avais l'impression que du jour au lendemain, on s'est mariés et ça a tout arrangé. Ce que je n'aime jamais, enfin, tout le monde dit, faut pas juste se marier pour faire, enfin, c'est pas ça qui va régler tous vos problèmes, nanana. Mais ça a réglé quelques-uns de nos problèmes.
Ouais.
Je pense que le fait de partager l'espace avec toi, j'ai fait plus d'efforts. Peut-être que j'étais moins à la maison, donc. Parce que je travaille, donc je travaille pas tout le temps.
Ouais.
Non, c'est... Je sais pas.
C'est aussi un côté de se dire, enfin, vous venez tous les deux quand même de famille, où je connais vos 4 parents, et d'ailleurs, bonjour, si vous nous écoutez. Et sans dire que vos parents sont la perfection incarnée, sans dire que vos familles sont les familles modèles, vous avez quand même tous les deux grandi dans des familles stables, dans des familles saines. Et est-ce que vous n'avez peut-être pas l'impression que c'est ça aussi qui vous a aidé à enclencher le mode mariage plus facilement, parce que vous aviez des modèles de toute votre vie, de toute votre enfance, qui ont été là, qui ont joué sur votre...
Si, je pense que... Moi, je suis très reconnaissant à mes parents d'avoir montré un tel exemple du mariage quand j'étais jeune. Je pense que j'ai jamais eu de crainte par rapport au mariage, j'ai jamais eu de difficulté à imaginer ça et à m'imaginer dans cette situation. Et c'est pour ça que moi, quand c'était le bon moment de notre relation de se marier, c'était même pas vraiment une question, quoi. J'ai pas vraiment eu de crainte par rapport à ça, de blocage par rapport à ça. Du coup, je pense que c'est vraiment mes parents qui m'ont vraiment donné un super exemple là-dedans.
Ouais, je pense que t'as raison. Avoir des familles stables autour de toi, ou des couples stables autour de toi, même au-delà des parents, enfin, il n'y a pas que des couples parfaits, enfin, il n'y a aucun couple parfait même autour de nous, mais voilà, il y a de bons exemples autour de nous, ça t'enlève plein de craintes que tu... Enfin, tu y réfléchis même pas par rapport à d'autres personnes qui ont vu des exemples de couples un peu plus difficiles ou plus de divorces, et tu parles avec eux et ils ont en général plus de craintes par rapport à toutes ces questions-là. Et c'est pas insurmontable, hein, mais c'est... Je pense que c'est une facilité, donc tu t'en rends même pas compte si tu... t'es pas face à d'autres qui ont eu des expériences différentes.
Et je pense que c'est, enfin, tu vois, en disant ça, c'est important de pas le dire en mode ouais, nous on vient de famille stable et tout, c'est génial, machin. Nous, de toute façon, on est prédisposés à avoir des bons mariages, parce que d'une part, il y a des gens qui viennent de familles stables et qui, pour des raisons qui sont pas leur faute ou quoi que ce soit, se retrouvent mariés à une personne extrêmement malsaine sans qu'ils le sachent. Ça conduit à des divorces, ça conduit parfois à des cercles et à des spirales qui sont comme ça, et c'est pas du tout une question de pointer du doigt, d'une part. Et d'autre part, je pense que c'est aussi, enfin, avoir conscience de ça, c'est aussi, et dire ça, et je pense qu'il y aura des auditeurs ici qui viennent de familles qui sont qui ont pas été faciles pour eux, et c'est aussi en quelque sorte ce que moi je voudrais vous dire comme message, c'est un mariage sain, c'est possible. Et si c'était pas votre expérience en grandissant, je sais que c'était pas le cas de mes parents à moi. Des deux côtés de mes parents, il y avait des complications assez difficiles au niveau de soit du père, soit de la mère. Et les deux, en travaillant à leur mariage, en prenant conseil auprès de personnes, ils ont peut-être le mariage le plus épanoui que je connaisse. Mais mes parents, ils sont tellement amoureux l'un de l'autre. Ils approchent de la... Ils ont bien mis cinquantaine, ils approchent de la soixantaine. Ils sont toujours fous amoureux de l'un de l'autre. Ils se font encore des bisous dans la cuisine quand on est là. C'est très gênant. Non, moi, ça ne me gêne pas du tout parce que j'ai grandi là-dedans, en fait. Donc, c'est plutôt pour d'autres qui rentrent dans cet univers-là. Rebecca, quand elle est rentrée dans l'univers familial que nous, on avait, elle était là, elle hallucinait, quoi. C'est genre, c'est pas possible, ça n'existe pas, quoi. À la fois, c'est trop bien et à la fois, c'est trop bizarre. Mais voilà, mes parents ont réussi à bâtir ça en y travaillant. Donc c'est aussi une façon de dire, ne soyez pas découragés si c'est pas votre expérience. Ça reste possible de bâtir un mariage qui est beau, qui est sain, qui est joyeux. Ça demande à ce que tous les deux y travaillent. Et surtout, en faisant ça, vous laissez un dépôt pour vos enfants qui est inégalable, quoi.
Ouais. Et pour moi, c'est un peu je ressens rarement une pression générationnelle, sauf quand ça vient au mariage, dans un sens où je suis genre, c'est important que mon mariage soit bon et sain, et parce que le jour où j'ai des enfants, c'est important qu'eux puissent voir ça, parce que c'est peut-être la chose que je puisse leur donner qui est de mieux, en fait, de moi en tant que parent, c'est de montrer à mes enfants à quel point un mariage peut être épanouissant et important et sain, mais aussi à quel point le mariage peut servir autre chose, et à quel point il peut servir Dieu et servir le royaume de Dieu. Et du coup, c'est quelque chose que c'est une dépression que je ressens en tant que futur parent et mari actuel, de vraiment ressentir qu'à quel point c'est important d'avoir un bon mariage.
Mmh. Ouais.
Quelle a été la chose la plus difficile du coup ? On n'en a pas vraiment parlé. En adaptation.
Je crois à l'argent.
Ouais.
L'idée que c'est plus juste ton argent, c'est mmh. notre argent, parce qu'on a décidé de mettre en commun tout notre argent, ce qui pour moi n'était pas un choix difficile. On savait tous les deux, enfin pour nous c'était un peu ouais. logique, c'est ce que faisaient nos parents, enfin ce qu'on fait tes parents je pense.
Ouais. Ouais.
Et enfin pour nous ça avait une logique dans le sens où on allait avoir une vie commune, donc avoir un compte bancaire en commun, enfin tout ça, vraiment la mise en commun des biens pour nous c'était assez logique, enfin ça allait de soi. Mais ensuite de voir le vivre, d'accepter que bah du coup l'autre personne peut dépenser notre argent ou l'autre ouais. personne, enfin c'est dur de pas pouvoir juste gérer ça toute seule même si tu fais pas très bien de devoir prendre en compte l'autre personne et d'avoir des discussions où tu dois faire des compromis par rapport à ça,
des réunions de budget
et... Ouais, trop nul.
Ouais, c'est les meilleures celles-là.
Ça se passe toujours assez bien, mais je les redoute à chaque fois. Et de reconnaître que juste parce que l'autre personne agit différemment, c'est pas pour ça qu'il agit mal. Je pense que tu peux transposer ça à plein d'autres, d'autres thèmes dans le mariage, mais pour nous, je pense que ça a été un peu le plus difficile. C'est comment faire des compromis quand on n'est pas d'accord sur un truc. Ouais.
Mon truc qui me frustre, c'est que maintenant je peux pas te donner de cadeau sans que toi tu connaisses le prix du cadeau en fait. Parce qu'on est dans une situation où on n'est pas non plus financièrement. On est financièrement stable, mais on n'a pas on a pas de l'argent qui tombe des nuées non plus. Mmh. Et du coup, toi en tant que personne qui est économe et qui doit savoir un peu combien on coûte. L'argent qu'on dépense tout, ouais. toi tu dois savoir combien j'ai dépensé sur ton cadeau d'anniversaire ou de Noël.
Ouais, je t'ai déjà interdit de dépenser plus sur moi.
Ouais. Ça vous aidera ou ça vous aidera pas, mais Rebecca et moi au début du mariage, on l'a pas fait depuis un petit moment parce que notre budget est un peu trop complexe en ce moment, mais au début du mariage c'était beaucoup plus simple et on avait budgétisé genre 50 euros chaque mois que Rebecca et moi on dépensait sur ce qu'on voulait. Et puis 50 euros pour le cadeau. Ça veut dire qu'il y avait au moins 50 euros qui étaient mis dans le cadeau de Rebecca, mon cadeau à moi. Et puis si tu avais envie de dépenser plus, bah tu le dépensais de ton entre guillemets.
Pardon.
Non, tu le dépensais de ton entre guillemets argent de poche.
Ouais.
Pour aller encore plus loin. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on disait. Alors c'est pas pour savoir combien le cadeau a coûté. Ça on n'est pas très précieux là-dessus. Mais c'était plutôt pour pas savoir qu'est-ce que le cadeau est en avance. On disait à l'autre personne, interdit de regarder les comptes bancaires pendant un mois avant l'anniversaire.
Ouais.
Voilà.
Ouais,
c'est
ouais.
ça. Un peu notre deal.
On a jamais réussi à mettre en place l'histoire de l'argent de poche, vraiment.
Non.
Je sais pas pourquoi.
Parce qu'en fait.
Avec nos comptes, enfin.
Je dépense trop, en fait. je surdépense tout
le temps.
J'ai
jamais dépensé mon argent.
Mais en fait, le problème, c'est aussi, c'est que tu réalises à quel point, en fait, on est des gens différents et on a des hobbies, des trucs différents, des choses où on veut dépenser de l'argent sur des choses différentes. Et toi, c'est plutôt les habits, le fashion, et moi, c'est plutôt la technologie. Et entre ces deux choses-là, il y en a une qui dépense beaucoup plus d'argent que l'autre, et surtout parce que toi, t'aimes beaucoup tout le côté fashion budget, fashion bas prix, vintage, toutes ces choses.
Moi, j'essaie d'acheter des trucs d'occasion parce que ça coûte moins cher.
Et moi, je suis genre, mais je peux pas faire ça pour la technologie.
Et c'est meilleur pour l'environnement. ouais.
Donc c'est genre le truc où ça matche pas. On peut avoir le même argent de poche et puis moi je serais pas très content et toi tu serais très content. Voilà.
On verra.
Ouais.
On verra ce qu'on fait.
On verra. Bon, on en arrête là. Merci beaucoup Gemma. Merci beaucoup Nathan.
Merci à toi.
Partagez ce podcast avec vos amis, avec votre famille, avec vos maris et vos femmes. Vos époux et vos épouses.
Mettez 5 étoiles sur
Apple Podcasts.
Ouais.
Et découvrez-nous sur Spotify, sur Encore et puis sur Pocket Casts. Et Nathan, on peut te retrouver sur facebook.com/NathanLambert, c'est ça ?
C'est bien ça.
On peut me trouver sur Instagram et Gemma, on peut te retrouver où ?
Je sais pas moi, je sais pas, sur Twitter.
Hein. Rue.
C'est drôle, toi. Sur Twitter. Non, ça se dit trop pas en français.
Gemma the Hood, c'est ça?
Non, ça c'est mon truc Instagram. Ah. Merci. Sur Gemzipi.
G-E-M-S-I-E-P-I-E. Merci beaucoup. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.
Oh, yeah.